Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Arrestation arbitraire que dit la loi congolaise. Il arrive souvent que des agents de l'ordre arrêtent des personnes sans respecter les procédures requises. Pourtant, la loi congolaise dit que tout citoyen congolais jouit de la présomption d'innocence aussi longtemps que le jugement n'est pas encore rendu. Alors, qu'est dit la loi congolaise sur une arrestation arbitraire? Guilhem Allaire est juriste indépendant et là pour nous donner plus de précisions. Rebonjour Guilhem Allaire.
Oui, bonjour Marcel.
Alors, qu'est-ce qu'on attend par arrestation arbitraire?
L'arrestation arbitraire, d'une manière simple, c'est le fait de priver quelqu'un de sa liberté d'aller et de venir. C'est une liberté individuelle qui est sacrée et qui est consacrée par notre constitution, laquelle veut que tous les citoyens congolais, toutes les personnes qui ont décidé de résider au Congo puissent être libres d'aller et de venir sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, bien sûr dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Et donc pendant l'exercice de cette liberté, personne ne peut intervenir pour arrêter une personne, pour la détenir ou l'enlever dans des formes qui ne sont pas prescrites par la loi. Donc il n'y a que la loi qui peut autoriser dans certaines circonstances qu'il puisse être mis fin à cette liberté d'aller et de venir qui est un droit fondamental de la personne humaine au Congo.
Alors, comment cela doit se passer si une arrestation doit se faire selon le prescrit de la loi?
Oui, par exemple, il est dit que pour toutes les infractions flagrantes, c'est-à-dire qui viennent de se commettre dans un temps voisin, oui. Toute personne peut, n'est-ce pas, se saisir de l'auteur de l'infraction. Par exemple, quelqu'un qui agresse une personne qui passait sur la rue, ou un voleur qui est en train de subtiliser un bien de la poche d'un passant, et que vous assistez à ça, vous pouvez vite vous appréhender de ce voleur et l'amener vers le poste de police le plus proche. Là, vous ne commettez pas une arrestation arbitraire parce que la loi permet qu'en cas d'infraction flagrante, donc, eh bien, toute personne peut interpeller l'auteur de l'infraction. Alors, il en serait autrement si c'est une infraction qui fut commise il y a un mois, une semaine, etc. Et que la personne est en train de passer, il y a un passant ou une jeune femme qui vous dit « Tiens, ce monsieur ici m'avait giflé il y a une semaine. » Et vous, citoyen, vous tombez sur la personne, vous l'arrêtez pour l'amener devant le poste de police. En la privant seulement de sa liberté d'aller et de venir, vous commettez une arrestation arbitraire. Parce qu'en ce moment-là, si la personne est identifiée et qu'elle a commis l'infraction il y a longtemps, ce qu'il faut faire, c'est d'aller au poste de police, chercher une convocation, enfin porter plainte pour que la police puisse convoquer la personne et non vous-même procéder à son arrestation. Donc j'ai donné cet exemple pour faire comprendre aux auditeurs que dans un même cas, lorsqu'on est en cas de flagrance, on peut arrêter. Lorsqu'il n'y a pas flagrance, il ne faut pas arrêter. Il faut aller déposer plainte pour que la police elle-même se charge d'interpeller la personne. Donc, selon le cas où l'on se trouve, on peut être auteur d'arrestation arbitraire ou alors, à ce moment-là, on peut effectuer valablement l'arrestation parce que la loi l'autorise en cas d'infraction flagrante. C'est un petit exemple qui peut faire comprendre la différence.
Alors, dans ce cas, lorsque vous amenez la personne dans un poste de police, qu'est-ce qui doit se passer après?
Très bien, lorsque vous amenez la personne devant le poste de police, il faut d'abord vous assurer que votre plainte d'abord porte sur des faits réels. En ce moment-là, la police va instruire, enquêter, poser des questions, descendre sur le terrain, appeler des témoins.
On va profiter de ce moment-là pour déposer déjà la plainte auprès de l'OPJ.
Absolument, pour que les choses soient réelles. Mais qu'est-ce qu'on constate dans la vie pratique? C'est que souvent, pour des motifs qui ne sont pas vraiment établis, des personnes profitent de leur relation avec les OPJ agit de la police en tant qu'ami, etc., pour faire arrêter d'autres, hein, pour montrer que, bon, moi je suis connu, j'ai des relations, pour exercer une sorte de vengeance, de représailles. À ce moment-là, vous faites faire une arrestation arbitraire lorsque vous déposez faussement une plainte contre quelqu'un, juste pour le plaisir de la faire arrêter par le policier. À ce moment-là, et le policier et vous-même, vous êtes coupable d'arrestation arbitraire.
C'est comme lorsqu'on entend des gens dire yo et binga ceux qui viennent, tu sais qui je suis.
Voilà. Tout à fait. Beaucoup de gens abusent de leurs relations avec les agents de la police notamment, ou même des magistrats, pour faire arrêter d'autres. Eh bien, il faut qu'ils sachent que cette infraction est prévue par la loi, celle d'arrestation arbitraire et de détention illégale, et qui est sévèrement sanctionnée par la loi.
Alors, on est en train de poursuivre. Vous arrivez maintenant avec la personne devant le poste de police. Vous déposez la plainte auprès de l'OPJ. Et vous pouvez, la personne va rester sur place. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une enquête qui va être diligentée, ou bien ça va se passer comment au niveau de l'OPJ cette fois-ci?
Oui, au niveau de l'OPJ, l'OPJ est considéré comme le bras du parquet, c'est-à-dire c'est l'OPJ qui effectue le travail de terrain, qui appelle les témoins, qui les interroge, qui voit si les faits qui sont reprochés à la personne arrêtée sont établis, et à ce moment-là, transmet les dossiers au parquet avec tous les résultats de son enquête, afin que le parquet puisse requérir une peine auprès du tribunal. Donc ça, c'est la procédure normale. Mais il est des cas où les OPJ, par exemple, détiennent cette personne-là au-delà de la durée, parce que la loi limite le temps pendant lequel l'OPJ peut garder la personne qui a été déférée devant lui. Et c'est 48 heures. Et si l'OPJ, au-delà des 48 heures, hein, n'est-ce pas par principe, au-delà des 48 heures, maintient la personne toujours en état de détention, eh bien la détention devient illégale, parce que la loi a réglementé strictement les cas de la détention. C'est la constitution de notre pays qui dit que la liberté est la règle et la détention doit être une exception. Donc on doit recourir à la détention qui est dans des cas très précis qui sont prévus par la loi.
Arrestation arbitraire, que dit la loi congolaise? Vous avez des réactions, des témoignages ou des préoccupations par rapport à ces sujets? Vous pouvez déjà nous appeler au 081 890 6394 ou nous envoyer un SMS au 081 711 5001.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Marcel Tchaba nous appelle de Kananga dans le Kassai occidental. Marcel, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour à l'invité.
Bonjour.
On vous écoute Marcel.
Oui, moi je voudrais un peu dire comme ça. Oui, l'article 17 de la Constitution stipule que nul ne peut être arrêté ni détenu qu'en vertu de la loi et sanctionné pénalement sous l'incrimination de l'arrestation arbitraire et détention illégale. Maintenant, je pose la question à l'invité. Quelqu'un qu'on n'a pas envoyé une convocation pour répondre au parquet, on ne le suit pas avec un mandat d'amener sans connaître les motifs de son arrestation. L'invité peut me dire de cette arrestation, c'est arbitraire ou non arbitraire?
Merci Marcel. Guilhem Aléré.
Oui, merci beaucoup pour la question. Souvent, il y a une opinion qui court et qui considère que la personne doit être, n'est-ce pas, convoquée à trois reprises. Et que ce n'est qu'après la troisième, le non, la non-réponse à la troisième convocation que la personne doit être, n'est-ce pas, arrêtée ou amenée par force devant l'OPJ. Mais ici, en ce qui concerne le magistrat du parquet, il faut noter que le code de procédure pénale ne dit pas ça en ce qui concerne le magistrat du parquet. Le magistrat du parquet a le loisir de vous envoyer ce qu'on appelle le mandat de comparution, qui est la convocation, comme vient de dire l'auditeur, un mandat de comparution à comparer devant le magistrat du parquet. Le magistrat du parquet peut envoyer un mandat de comparution seulement et n'est pas envoyer un deuxième ou un troisième. La loi ne l'oblige pas à le faire. Et si les faits sont graves, si les faits sont graves et qu'il y a des indices qui montrent que la personne suspecte peut fuir dès qu'elle sait qu'elle est, n'est-ce pas, recherchée par la justice, eh bien le magistrat du parquet est tout à fait habilité à émettre directement un mandat d'amener, parce qu'en fait le mandat d'amener, c'est juste pour appréhender la personne et la faire comparaître devant le magistrat du parquet. Mais une fois que l'instruction commence, eh bien il n'est pas pas dit que le magistrat va nécessairement la faire détenir. C'est juste pour être sûr que la personne comparaîtra. Et lorsque le magistrat a l'impression, a des éléments qui lui permettent de croire que dès que la personne verra un mandat de comparution, elle va, qui n'est qu'une simple invitation, elle va en profiter pour fuir ou se soustraire à la justice, eh bien, il est tout à fait autorisé au magistrat du parquet, n'est-ce pas, d'envoyer pour la toute première fois un mandat d'amener, de sorte à s'assurer que la personne comparaisse effectivement. C'est souvent le cas dans les cas d'infractions graves.
Norbert Moigna nous appelle de Kindu dans le Maniema. Frédéric Chilanda à Kananga, dans le cas occidental, on commence avec Norbert. Norbert, bonjour. Norbert, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour Marcel.
Allez-y.
Bonjour à l'invité aussi.
Bonjour.
Allez-y Norbert, on vous écoute.
Je me souviens un jour, on était dans une petite terrasse comme ça, il y avait une foule de policiers qui avait fait son entrée là, dans cette terrasse. Eh ben, nous étions les étudiants, un groupe d'étudiants. Ils ont dit que non, vous, messieurs, vous êtes arrêtés, sans mandat, sans même une convocation, sans quelque chose comme ça. Eh ben, que peuvent faire les gens comme ça, en cas de telles arrestations arbitraires?
Merci Norbert. Frédéric Chilanda, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour à l'invité.
Vous êtes à Kananga, dans les Cassos occidentaux. On vous écoute Frédéric.
Oui, Marcel, j'ai dit d'abord merci à la radio Capi pour les sujets très intéressants. Je voudrais tout de même apporter ma pierre d'édifice, bien sûr, à cette émission. Je crois que la justice en RDC n'existe pratiquement pas. Pourquoi je suis en train de le dire? Comme le dit le sujet, l'invité a expliqué. Il a dit, nous avons lu la Constitution. Qu'est-ce qu'on dit dans la Constitution? On nous dit, la personne doit être informée des motifs pour lesquels elle est arrêtée. Mais il est arrivé que moi, personnellement, j'ai été victime d'un cas d'une arrestation dite arbitraire. Supposons que la personne qui m'a porté plainte a des affinités avec l'OPG qui était chargé à verbaliser mon procès. Alors, je suis arrivé, je ne savais pas les motifs pour lesquels j'étais arrêté. Alors, j'ai eu à recevoir une convocation. Je suis parti répondre à la convocation. J'arrive, l'OPG commence à me dire, normalement, quand vous êtes déjà arrivé ici, est-ce que vous pouvez d'abord croire que vous êtes arrêté pour ça, accepter le fait que vous êtes dans une erreur? Je me suis dit, monsieur l'OPG, je ne connais pas les motifs pour lesquels je suis arrêté. Est-ce que vous pouvez d'abord m'informer? Je n'avais pas vu la personne qui m'avait porté plainte et l'OPG a commencé à m'intimider. Donc, c'est là, à faire voir que, juste quand vous êtes, quand on vous a porté plainte, c'est comme si la personne qui vous a porté plainte est présumée gagner le procès. Bon, je suis en train de me demander, est-ce que l'invité peut m'aider dans ces cas ici? Qu'est-ce que je peux normalement faire parce que j'ai eu à donner les sommes d'argent à payer les amendes transactionnelles? Et je me dis, c'était ça ce que la loi prévoyait, Marcel.
Merci Frédéric. Guilherme Maléry va vous répondre tout à l'heure. Amissi Fatah qui nous appelle de Kindu dans l'Humanima. Amissi, bonjour.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour, on vous écoute Amissi.
Oui, je voudrais demander à notre invité, est-ce que une autorité, parce que nous savons d'abord, M. Marcel, que les personnes habilitées à arrêter quelqu'un sont là, l'OPJ et l'officier du ministère public. Mais actuellement, nous voyons, lorsque vous avez un problème, par exemple, avec un officier supérieur de la police ou de l'armée, un capitaine, par exemple, un colonel, lui-même peut décréter votre arrestation sur place. Est-ce que là, n'est-ce pas une arrestation arbitraire? Parce que les autorités, c'est vraiment ici courant, parce que quand vous avez un problème juste avec un capitaine ou colonel de la police, lui-même ordonne votre arrestation. La deuxième question était de savoir quels sont les documents qu'un OPJ peut venir avec pour vous arrêter. Parce que souvent vous constaterez, à cause d'une convocation, on vous arrête immédiatement. À cause d'un avis de recherche, vous êtes arrêté immédiatement. C'est pourquoi je voudrais demander à notre invité qu'il nous dise quels sont les documents qu'un officier de police peut venir avec pour que vous soyez arrêté.
Merci Amissi. Guilherme Maléry.
Oh là là, c'est une avalanche de questions de la part de nos auditeurs. Nous allons essayer d'y répondre très rapidement. Je crois que c'est la question de Norbert, hein? Oui, qui parle des étudiants.
Ouais, qui était en train de, je crois, de prendre un verre sur une terrasse, et puis voilà, il y a une descente de la police.
Une descente de la police qui vient, et puis on dit que tout le monde est en état d'arrestation, etc. Et les policiers en question n'étaient pas munis d'un quelconque mandat d'arrestation. Donc, de prime abord, hein, quand on considère les récits faits par l'auditeur, on trouve qu'il y a une certaine illégalité dans la démarche des policiers, parce que justement, s'ils étaient en train de rechercher soit un groupe de gens, soit quelques-uns d'entre ces étudiants qui étaient tranquillement assis dans ce bar-là, ils auraient dû être munis, n'est-ce pas, d'un mandat délivré par l'officier du ministère public pour leur dire que telle personne doit être appréhendée et conduite devant nous, ou devant tel OPJ. C'est ce qu'on appelle le mandat d'amener. C'est ça, le mandat d'arrestation. Il peut aussi être possible que parmi ces personnes là-bas, il y en ait qui aient été condamnées par la justice et qui doivent purger leur peine. À ce moment-là, le ministère public, toujours donc le parquet, délivre un document qu'on appelle le mandat de prise de corps. Eh bien, les policiers peuvent être munis d'un tel document, et dès qu'ils arrivent, ils disent « Monsieur, on vous recherche, vous, voici le document qui nous autorise à vous appréhender ». Mais dans le cas d'espèce, les policiers viennent main vide et s'en prennent à ces étudiants-là. C'est assez étonnant parce que il s'agit d'une irrégularité flagrante. Nous sommes vraiment dans un cas typique d'arrestation arbitraire. Mais attention, Marcel, parfois les auditeurs, faute de temps, ne nous racontent pas toute l'histoire.
Dans quelles circonstances
exactement. Il peut arriver, par exemple, qu'il y ait eu des troubles publics qui ont été commis, sur la voie publique, et que donc il y avait flagrance, et que ces policiers-là étaient en train de rechercher des personnes qui étaient suspectées d'avoir commis ce trouble-là dans un temps très proche du moment où ils sont entrés dans le bar. À ce moment-là, on peut considérer qu'ils agissaient en situation de flagrance, parce que vous savez, pendant la situation de flagrance où l'infraction est en train d'être commise ou vient de se commettre, il est absurde que l'on demande aux policiers de rentrer d'abord au poste de police, chercher ou bien chez l'OMP chercher un mandat pour ensuite revenir sur le lieu des troubles. À ce moment-là, ils perdent du temps et ça peut permettre aux fauteurs de troubles de s'échapper. Donc c'est donc possible qu'il s'agit de fauteurs de troubles qui se sont réfugiés, par exemple, dans un bar. À ce moment-là, le policier est autorisé à les poursuivre, à les appréhender. Mais hormis ce cas-là, eh bien, le policier doit s'en référer à l'officier de police judiciaire, donner l'identité des personnes suspectes, et l'officier de police judiciaire, n'est-ce pas, leur délivre soit une invitation, convocation, soit alors il demande auprès de l'officier du ministère public un mandat d'amener. S'il n'était pas muni, si ce n'était pas dans des situations autorisées par la loi, eh bien la constitution est claire, tout citoyen a le droit de résister à un ordre illégal. Quand ils vous disent « venez, vous êtes en état d'arrestation », vous êtes en droit de dire « non, je refuse de vous suivre » et la constitution dit que c'est votre droit de résister à un ordre illégal qui vous est donné. Mais encore faut-il savoir que, bon, résister à quelqu'un qui a la Kalachnikov, n'est-ce pas, en bandoulière, il faut être prudent, n'est-ce pas, et voir dans quelles circonstances il vous arrête. Parfois, vaut mieux aller que de subir certaines violences, et une fois arrivé là-bas, n'est-ce pas, se prévaloir de ses droits, demander qu'on soit assisté par un conseil, un avocat, un défenseur judiciaire, qui lui va actionner le mécanisme de la plainte pour arrestation arbitraire.
Voilà, il y a également Frédéric Chilanda qui, lui, il a parlé de généralement, lorsqu'on vous remet une convocation, c'est mentionné, les motifs vous sera communiqué sur place, mais voilà, lui, il arrive, et puis... c'est une autre histoire qui l'attend devant l'OPJ.
Oui, effectivement, lui a même cité plusieurs principes de droit qui ont été violés dans son cas là-bas. L'OPJ qui se comporte déjà comme si la personne était coupable. Oui. Donc il viole le principe constitutionnel aussi de la présomption d'innocence, parce que la personne qui comparaît devant l'OPJ est présumée innocente et doit être traitée comme telle. Et donc un OPJ qui commence déjà à vous traiter comme un coupable, n'est-ce pas, qui apparaît manifestement comme ayant déjà été conditionné par le plaignant. Et lui-même, dans ce cas-ci, Frédéric, je crois, a dit clairement qu'entre l'OPJ et la personne qui a porté plainte, il y avait une certaine affinité. Nous sommes ici en plein dans un cas d'arrestation arbitraire, et surtout lorsque l'OPJ refuse, alors que c'est un droit reconnu, constitutionnel même reconnu à la personne suspectée, de lui donner les motifs de son arrestation. Nous sommes ici dans un cas d'arrestation arbitraire. Mais ce qu'il faut que les citoyens sachent, c'est que l'OPJ n'est pas invulnérable. C'est que l'OPJ n'est pas un tout-puissant, comme on a tendance à le penser, surtout dans les milieux ruraux, parce que l'OPJ a un chef qui a sa tutelle technique qui s'appelle le procureur de la République. Donc dès qu'un OPJ commence à vous brimer, n'est-ce pas, vous avez le droit d'aller vite à l'office du procureur de la République ou envoyer même un frère, un membre de famille pour porter plainte contre cet OPJ, et vous verrez que l'OPJ sera interpellé. Dès qu'il est interpellé, le procureur a le pouvoir, n'est-ce pas, de le suspendre, de lui retirer sa carte d'OPJ, de lui retirer l'habilitation pour 6 mois, pour 1 année, et même de l'éradier de la liste des OPJ. Et ça, c'est une sanction grave pour les OPJ. Dès que vous le savez, vous pouvez même le lui dire, vous savez, monsieur l'OPJ, tel que vous êtes en train de vous comporter là, je crois que je vais m'en référer au procureur de la République. Dès qu'il entend ça, un OPJ sage directement change de comportement. Et enfin, les citoyens aussi, de plus en plus, savent que les militaires, les policiers sont une catégorie justiciable devant les juridictions militaires. Et le fait d'accuser un OPJ de la police à l'auditorat militaire, eh bien, vous verrez tout de suite que l'OPJ sera remis à sa place lorsqu'il pratique l'arrestation arbitraire.
Est-ce qu'on peut refuser de répondre à une convocation sur où il est mentionné le motif vous sera communiqué sur place? On peut refuser de répondre à tes convocations?
Non, parce que la convocation, ce n'est qu'une invitation. Il faut que les citoyens le sachent. Mais malheureusement, puisqu'on arrête de plus en plus les gens sur base d'une simple convocation, les gens ont peur de s'y rendre. Mais en réalité, c'est une invitation qui vous permet d'y aller. La précaution qu'il faut prendre dans ce cas-là, c'est d'aller tout simplement avec un conseil. Soyez assisté. Dès qu'on vous invite, appelez un avocat. Dites, maître, accompagnez-moi, j'ai une convocation. N'ayant pas inscrit les motifs, mais j'aimerais être avec vous. Alors, c'est en présence de l'avocat que vous allez réclamer le droit d'être préalablement informé des motifs pour lesquels vous avez été convoqué.
C'est aussi la réponse à Missy Fataki qui cherchait à savoir quels sont les documents qu'on doit présenter avant de...
Oui. Les mandats d'arrestation sont clairement déterminés par la loi. J'ai dit tout à l'heure, il y a le mandat d'amener qui n'est qu'un mandat pour arrêter la personne et la faire comparaître. N'est-ce pas? Une fois qu'elle a comparu devant l'OMP ou l'OPJ, eh bien, pour la détenir davantage, il faut un mandat d'arrêt provisoire. Le mandat de prise de corps aussi peut permettre d'appréhender quelqu'un qui a déjà été condamné. En dehors de ces cas qui sont listés par la loi, eh bien, il n'y a aucun autre, surtout pas les bulletins de service, dont on parle souvent, mais c'est une pratique qui est en train de régresser de plus en plus. Mais il y a un temps où on arrêtait les gens sur base d'un bulletin de service qui n'était qu'un ordre de mission donné aux policiers d'aller, n'est-ce pas, patrouiller dans un certain ressort. Bref, mandat d'amener, vous obéissez. Mandat d'arrêt provisoire, ça c'est clair, ils vous mettent sous mandat d'arrêt provisoire, mais tout le reste là, effectivement, il faut résister, appeler vite votre conseil pour contre-attaquer et porter plainte pour arrestation arbitraire.
Guillaume Allery, on vous retrouve tout à l'heure après ceci.
Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes ML, c'est gratuit. Radio Okapi.net à votre service.
Arrestation arbitraire, que dit la loi congolaise? Nous en parlons avec Guillaume Allery, juriste indépendant. Nous avons Blanchard Loana depuis Kinshasa, Joël Bongol également à Kinshasa et Jean-Rino Kaimbe à Kananga dans le Kassai occidental. On commence par Blanchard Loana. Blanchard, bonjour.
Oui, bonjour Marcel.
On vous écoute Blanchard.
Oui, ma question est la suivante. Quand est-ce qu'il y a une arrestation légale ou soit régulière peut devenir une arrestation irrégulière? Et la deuxième question, quand est-ce qu'un magistrat peut mettre un criminel sous une détention préventive?
Merci Blanchard. Joël Bongol, bonjour. Joël, bonjour.
Bonjour Marcel.
On vous écoute Joël.
Oui, j'ai 3 petites préoccupations. La première... Lorsqu'un receveur est arrêté parce que le chauffeur s'est échappé, peut-on qualifier ça d'une arrestation arbitraire? Et la deuxième, est-ce que la qualité de l'auteur de l'infraction peut aussi influencer la qualification des faits? Et la dernière...
Oui?
Oui, je disais, la dernière... Quels sont les éléments constitutifs de l'infraction de l'arrestation arbitraire?
Merci Joël. Nous en profitons pour faire un coucou à tous les étudiants en droit parce que la réalisation me fait signe que Blanchard Loana et Joël Bongo sont tous les deux étudiants en droit. Nous allons accueillir cette fois-ci Jean-Rino Kaimbe qui est à Kananga dans le Kassai occidental. Jean-Rino, bonjour.
Bonjour Radio Capi. Je me remonte à voir si vous pouvez m'établir le parallélisme entre la détention arbitraire la détention est illégale. Alors, par rapport à ça, je sais très bien que la Constitution donne la disposition précise par rapport à la détention. Comment vous pouvez réagir par rapport à un OPJ qui a arrêté la personne sans pour autant le former le motif pour lequel il est arrêté. Raison pour laquelle nous intervenons à la radio Okapi, nous disons sincèrement merci. Parce que nous savons en dehors de ça que l'OPG considère comme l'œil et l'oreille du ministère public. Par rapport à ça, vous voyez que l'OPJ aujourd'hui, en République démocratique du Congo, dépasse ses pouvoirs qui lui est conféré par la loi. Quel est maintenant le mécanisme que la loi organise par rapport à cette lenteur de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, Radio Capi.
Merci à vous autant, Jean-Renaud. Guillaume Aléry.
Merci Marcel, mais on est assailli par les questions là. Alors je réponds rapidement pour Blanchard, Loana, c'est ça, hein?
Oui, Blanchard, oui.
L'arrestation régulière devient irrégulière quand? Eh bien, le cas typique, c'est lorsqu'il y a dépassement des délais. Pour la garde à vue, c'est-à-dire au niveau de la police de l'OPJ, c'est 48 heures maximum, sauf si il y a des délais de distance que l'on accorde lorsque le poste du parquet se trouve très loin. Mais 48 heures par principe. Au-delà des 48 heures, eh bien, l'OPJ est censé vous déférer devant le parquet. S'il ne le fait pas, vous êtes déjà en situation de détention illégale, si vous voulez. Alors qu'au départ, la détention était régulière. Alors, l'autre question... Quand est-ce que l'officier du ministère public peut mettre en détention préventive? C'est lorsque d'abord la première condition, c'est qu'il y ait des indices graves de culpabilité. Il faut qu'il ait des éléments qui lui permettent de penser que vous êtes coupable. Mais au-delà de ça, il y a aussi la question de l'identité douteuse de la personne qui est suspecte. N'est-ce pas, si elle n'a pas un domicile fixe par exemple, eh bien on peut vous mettre en détention préventive. Mais attention, lorsqu'il s'agit aussi de faire échapper le suspect à la vindicte populaire, au lynchage par la population, on peut vous détenir pour votre bien.
Donc, la loi prévoit
un certain nombre de conditions. Alors, le receveur qui est arrêté à la place du chauffeur, c'est carrément illégal. C'est l'arrestation arbitraire parce que la responsabilité pénale est individuelle. On ne peut pas arrêter quelqu'un pour une infraction commise par quelqu'un d'autre. Alors, quand est-ce que la qualité de l'auteur peut influencer la qualification des faits? Bon, je crois que lorsque, par exemple, l'arrestation est commise par un agent de la police, donc un officier de police judiciaire, eh bien, c'est le cas typique même de l'arrestation arbitraire, parce que en ce qui concerne les citoyens, ils ne se rendent coupables d'arrestation arbitraire que lorsque, en dehors des cas de flagrance, ils se saisissent, n'est-ce pas, des suspects. Alors, pour ce qui est des éléments constitutifs de l'arrestation arbitraire, nous sommes là dans une question qui nous ramène pratiquement au cours de droit pénal spécial, mais la loi est très claire, il faut d'abord qu'il y ait arrestation de la personne, qu'il y ait enlèvement de la personne ou détention de la personne, eh bien, il faut que cette arrestation, détention, enlèvement ait été commise par les moyens de violence, de la ruse ou des menaces, parce qu'à partir de la ruse aussi, on peut arrêter, n'est-ce pas, arbitrairement quelqu'un. Bon, ensuite, il faut qu'il y ait un élément moral, n'est-ce pas, un élément intellectuel, c'est-à-dire l'intention et la connaissance du fait que ce qu'on est en train de faire est illégal, etc., etc. Je les donne de manière ramassée. Oui. Alors, Jean-Rino Kayembe, demander la différence entre la détention arbitraire et l'arrestation arbitraire. Oui. Eh bien, l'arrestation d'abord en soi se passe en un moment. C'est une infraction instantanée. C'est le fait tout simplement de priver quelqu'un d'aller et de venir, de vous empêcher de circuler. Eh bien, elle se réalise de manière instantanée. Tandis que, n'est-ce pas, la détention, elle, est une infraction que l'on peut appeler continue ou successive, parce que là, on vous place dans un lieu ou on vous maintient dans un lieu de manière plus ou moins continue. Il y a déjà une nuance entre les notions d'arrestation et de détention. Et quand vous lisez l'article 67 du Code pénal congolais, il dit que il qualifie cette infraction d'arrestation arbitraire et de détention illégale. Le qualificatif arbitraire est collé à l'arrestation et l'illégalité est, elle, collée à la détention. Voilà très brièvement ce que je peux dire aux amis étudiants en droit, en évitant d'aller justement dans cette voie-là, parce qu'il y a les autres auditeurs qui risquent de ne pas nous suivre dans les méandres techniques de ces deux infractions.
Tout à fait. Deux auditeurs en ligne, Malonga depuis Bandundu-Vi dans la province du Bandundu et Christian Gabwa Pandroma dans la province orientale. Malonga, bonjour. Malonga, bonjour. Malonga, bonjour. On va. Malonga, bonjour. C'est bon, allez-y Malonga, on vous écoute. Vous êtes en direct. Il y a un petit problème avec ma langue. On va recevoir Christian Gabou qui est à Pendrouma dans la province orientale. Christian, bonjour.
Si l'autre jour vous a envoyé le policier, on vous a arrêté. On vient de vous arrêter, on vous arrête 2 jours dans un cachot. Mais après qu'on va arrêter, l'autre jour vient d'attraper que vous êtes innocent. Est-ce que ces 2 jours-là qu'on a, vous arrêtez, est-ce que ce n'est pas des jours qu'on peut payer pour vous?
Vous voulez bien...
Ma deuxième question est celle-ci.
Oui.
Je voudrais savoir si lorsqu'on arrête les gens au parquet,
oui.
Je crois qu'il y a notre loi, il y a le temps qu'on peut arrêter quelqu'un au parquet. Maintenant, lorsque ça passe au-delà de ce temps-là, est-ce que le procureur n'a pas aussi commis l'arrestation arbitraire? C'est ma question.
Merci Christian. Guillaume Allaire.
Oui, lorsque vous êtes victime d'arrestation arbitraire et qu'on finit par vous relâcher, notre auditeur Christian a tout à fait raison, vous avez droit à des dommages-intérêts. C'est un préjudice que vous subissez, vous devez être dédommagé. Il a tout à fait raison. Et les magistrats du parquet aussi, comme les OPJ, peuvent commettre l'infraction d'arrestation arbitraire lorsqu'ils arrêtent et détiennent quelqu'un en dehors des formes qui sont prescrites par la loi. Eux aussi peuvent être coupables d'arrestation arbitraire.
Voilà, la raison me fait signe que c'était plutôt Malonga depuis Bandundouville qui venait d'intervenir tout à l'heure. Là, maintenant, on va recevoir Christian Gabouki à Pendrouma, dans la province orientale. Christian, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour les juristes.
Vous avez la parole, Christian.
Ma question s'est formulée tout juste pendant que les policiers sont en train de mener le mandat d'amener sur une population quelconque. Bon, est-ce que la loi n'a pas prescrit qu'on informe aussi les autorités de la place pour cause de l'arrestation de ce peuple? Parce que ce que nous avons vécu dans notre milieu, on arrive, les policiers arrivent, ils arrêtent. Alors ce sont plutôt les autorités de la place qui cherchent maintenant les causes de l'arrestation de son peuple. Alors quand ils cherchent ça, on les frappe, même les policiers, ils ne respectent pas les autorités de la place. Est-ce que la loi n'a pas prescrit de respecter la dignité des autorités de la place? Merci beaucoup.
Merci Christian. Jean-Pi Kalonda nous appelle de Lubumbashi dans le Katanga. Jean-Pi, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Jean-Pi.
Oui, ça va. Je voulais poser une question à notre invité.
Oui, allez-y.
Est-ce que les policiers peuvent arrêter une personne qui a commis des crimes et lui arrêter à partir même de 23h jusqu'à 4h? Est-ce que cette heure-là, il est permis d'arrêter une personne? On a porté plainte. Je voulais savoir, j'attends la réponse.
Merci, Jean-Pi. Guillaume Allaire.
Oui, je commence par Christian Ngabou, je crois. Est-ce que on peut procéder comme ça à l'arrestation de plusieurs citoyens sans aviser les autorités locales? Bon, et puis les autorités surprises viennent intervenir, on brutalise ces autorités. Là, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. D'abord, un problème de circulation de l'information entre autorités qui dirigent. Vous savez que ces problèmes sont résolus normalement à travers les conseils de sécurité qui sont érigés au niveau de la province, au niveau de chaque entité territoriale. Et donc c'est à ce niveau-là que les autorités, c'est-à-dire le bourgmestre par exemple ou l'administrateur du territoire, peut parler avec le commandant de la police ou le procureur de la République. Ils peuvent échanger. Les procureurs peuvent leur dire qu'il y a telle action d'envergure qui va être menée, de sorte que les autorités politico-administratives ne soient pas surprises. Mais ceci n'empêche pas le procureur de la République, si c'est lui qui a délivré le mandat d'amener, de faire son travail. Il peut faire son travail, mais la courtoisie veut que lorsqu'il y a des actions d'ampleur à mener, on puisse informer l'autorité politico-administrative du lieu, par exemple le gouverneur de la ville ou le gouverneur de province, pour lui dire que nous allons procéder à des arrestations, n'est-ce pas, des masses qui peuvent avoir des implications sur le plan social. Et donc, à ce moment-là, l'autorité est informé et peut, n'est-ce pas, encadrer ou donner des explications à la population lorsque ces arrestations suscitent, n'est-ce pas, des réactions. Alors, pour Jean-Pi, il demande si le policier peut procéder à des arrestations entre 23h et 4h. Vous le savez très bien que généralement lorsque les policiers sont munis des mandats d'amener, eh bien ils n'entrent pas dans les domiciles, en tout cas pas pendant ces temps-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se postent au coin de l'avenue ou n'est-ce pas au coin des tunnels comme on en a ici dans nos cités et ils attendent l'aube. C'est à partir de 5h du matin qu'ils exécutent les mandats qu'ils ont parce que vers les heures qui ont été citées par l'auditeur, il est citoyens interdits, n'est-ce pas, de troubler la vie privée et la quiétude des citoyens. C'est donc à l'aube, à partir de 5 heures du matin, que ces mandats sont exécutés et la limite va, je crois, jusqu'à 21 heures.
Mais là ils doivent attendre devant la porte, et non pas il y a des cas où on laisse entendre que les policiers sont permis de...
Non, parce qu'ils n'ont pas un mandat de perquisition, ils ne peuvent donc pas entrer dans les domiciles, ils ont un mandat d'arrestation, eh bien, ils vous attendent à la porte, ils ont des stratégies pour exécuter leur mandat, ils vous attendent à la porte, et même s'il y a des sorties à l'arrière, ils se postent là-bas, et attendent tranquillement, lorsque vous voulez sortir, ils vous appréhendent, mais c'est après 5 heures du matin, et non avant 5 heures du matin, donc il avait raison, Jean-Pi, de nous rappeler ces principes-là. Ce qui est fait pendant ce temps-là est une détention tout à fait irrégulière, parce que l'arrestation n'a pas respecté ce que la loi a prescrit.
Ben, nous avons beaucoup de réactions, il y a celles qui viennent de nous parvenir par SMS et même par notre page Facebook. On découvre la réaction de Patrick Lombiongo. Il dit ceci: lorsqu'on est arrêté arbitrairement et qui par la suite on est relâché, doit-on intenter une action récursoire, je ne sais pas ce que je veux dire par là, pour avoir une sorte de dédommagement?
Il a raison, effectivement, parce que vous avez subi un préjudice lorsque vous avez été arrêté sans raison et dans l'irrespect total de la loi. Vous avez raison de vous retourner contre les auteurs de l'arrestation, c'est-à-dire et l'officier qui vous a arrêté et la personne qui a faussement porté plainte contre vous pour être dédommagé. Il a raison.
Enfin, il y a Olivier Kimbaou depuis Kindu. Il dit les OPJ ne font plus des convocations, ils les transforment en avis de recherche pour n'importe quel cas. Que faut-il faire dans ces cas?
Eh bien, dans ce cas, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut contre-attaquer et vous plaindre soit à l'auditorat militaire, soit auprès du procureur de la République, qui est l'autorité qui donne l'habilitation aux OPJ. Il ne faut pas rester passif, il faut contre-attaquer et porter soi-même plainte pour arrestation arbitraire.
Et John Akindou, ici, même le magistrat arrête les gens jusqu'à les priver de liberté provisoire, même si leur fuite n'est pas à craindre, et tout ça pour chercher la caution de liberté provisoire qui va de 1 000 $ et même plus.
Ça, c'est excessif. Ben, il faut savoir que même les magistrats, ils ne sont pas invulnérables. Pour les magistrats, il suffit de vous adresser au chef de l'office pour qu'il puisse changer le magistrat qui est en train d'instruire l'affaire si vous considérez que ce magistrat est partial. Mais vous pouvez aussi aller plus haut, aller vers le procureur général qui lui dirige le parquet de supervision des magistrats et porter plainte contre le magistrat. Il peut être poursuivi même sur le plan disciplinaire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas être passif, mais d'aller vers les autorités pour qu'elles puissent sanctionner leur conduite.
Beaucoup de réactions. Va accueillir deux derniers auditeurs qui sont en ligne. Moïse Kitaout et depuis Boutemo dans le Nord Kivu et Walter Chibouaboua Mbujimai dans les Kasai orientales. Moïse, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Allez-y rapidement, Moïse. Oui, c'est quoi votre question? Oui.
C'est ça?
Allez-y, c'est quoi votre question?
La question était de savoir si cette petite convocation qu'on a fait avec la police, qui est-elle payable? Et la deuxième question est juste quand vous venez de vous entretenir avec l'OPJ, on nous a toujours demandé de payer quelque chose. Quel est-il légal ou pas? Merci de la question.
Merci Moïse. Walter Chibobar, bonjour.
Bonjour Radio Okapi.
Vous êtes en Bujima dans les Kasai orientales, on vous écoute.
Oui, ma préoccupation est la suivante.
Allez-y.
Oui, vous avez surpris quelqu'un qui vous avait volé vos biens. Vous les surprenez quelque part là. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? Vous allez d'abord chercher les secours de la police, puis la convocation après, ou bien vous allez d'abord commencer par la convocation, puis l'arrestation après. Parce qu'en ce moment-là, si vous vous dites contactez d'abord les bureaux de la police, la personne va s'échapper. Mais s'il arrivait que vous puissiez mettre la main sur la personne et la convocation après, je ne sais pas ce que la justice nous dira par là.
Merci Walter. Guilherme Aléry, qu'est-ce que vous dites?
Question très intéressante. Oui. Est-ce que la convocation qui est mise par la police est payable?
Est payable, oui.
En principe, non. Hein, la convocation, il n'y a rien à payer et pour le plaignant et pour la personne qui est convoquée, mais dans la pratique il nous semble que certains policiers exigent des frais, même au plaignant, pour établir la convocation. En ce moment-là, ils se rendent coupables d'une infraction qu'on appelle la concussion. Vous avez le droit de porter plainte contre un tel policier. Les petits quelque chose qui est exigé par les policiers lorsqu'on a fini de parler avec lui à l'issue de la convocation, eh bien le petit quelque chose là est interdit par la loi. Vous n'avez pas à payer quoi que ce soit, et même lorsqu'il s'agit d'amendes transactionnelles que l'on vous propose de payer pour que les poursuites s'arrêtent là, eh bien vous devez savoir que vous avez le droit de refuser de payer une amende transactionnelle et d'exiger que votre dossier soit transmis au parquet. Vous n'êtes pas obligé de payer l'amende transactionnelle. On l'appelle transactionnelle parce que justement, on négocie sur tout ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous dites, moi je préfère que mon dossier aille au parquet. Le policier ne peut pas vous obliger à la payer. Lorsqu'il vous oblige à la payer, il commet une extorsion de fonds. Vous pouvez porter plainte contre lui. Eh bien, vous surprenez un voleur, vous étiez en train de promener, vous remarquez quelqu'un qui est un voleur que vous connaissez, dont vous avez été victime. Est-ce que vous pouvez l'arrêter? Oui, vous pouvez l'arrêter si le vol a été commis dans un temps très voisin du moment où vous avez surpris la personne. N'est-ce pas? En ce moment-là, vous êtes encore dans ce qu'on appelle la flagrance. Mais s'il y a une semaine, deux jours, trois jours que vous aviez été victime de vol et que vous voyez quelqu'un qui ressemble au voleur de ce jour-là, vous n'avez pas le droit de l'arrêter directement parce que vous pouvez arrêter un innocent. Hein? Sinon, si on permet aux citoyens de faire ça, Marcel, il suffit que vous ressembliez à un voleur que lui a connu il y a une semaine, eh bien, il peut vous arrêter. Non, en ce moment-là, il faut plutôt aller vers le poste de police le plus proche et signaler que, n'est-ce pas, telle personne, vous l'avez vu, entrer dans telle parcelle, etc. Et la police va mener des enquêtes. Et la convocation, la dernière question, c'était sur la convocation. Il voulait savoir si elle devait venir avant ou je n'ai pas...
Vous avez déjà répondu par rapport à ça, c'était que la convocation, c'est juste une invitation.
C'est juste une invitation. Je crois que les auditeurs peuvent avoir leurs assurances par rapport à cela. La convocation n'est pas un mandat d'arrestation. Il ne faut pas qu'il soit abusé par rapport à cela.
Guylain Maléré, juriste indépendant, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir répondu aux préoccupations et questions des auditeurs sur l'arrestation arbitraire que dit la loi congolaise. Je vous remercie.
Merci à vous, Marcel. Merci à Radio Okapi.